France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Nouvelle étape donc en Savoie avant de prendre la direction de l'Essonne. D'ailleurs, il y a des liens entre nos deux rendez-vous autour de l'alimentation locale et saine. En Savoie, deux créateurs d'un service de traiteurs locavores et éco-responsables ont donc été poussés, comme je disais il y a deux minutes, par la crise sanitaire à se réinventer dans un tout autre registre, la création de bornes de distribution de gel à base de ski local. Calvore et solidaire, voilà ce qui définit aussi le réseau Éco-Jolie, terre vivante dans le sud Essonne. Le but est d'ouvrir des points d'alimentation dans les communes qui ont perdu leur commerce avec l'aide des producteurs locaux. On doit ce projet à une association fondée par Michel Montbrun, militante de la solidarité de la première heure.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Romuald Santini, bonjour.
Bonjour.
Vive les traiteurs locavores, c'est votre cas, avec votre société, la source voisine, traiteur événementiel, c'est une entreprise labellisée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et avec Frédéric à Aix-les-Bains, donc vous avez créé cette société, sauf que la crise sanitaire ne vous a pas aidé. Du coup, vous avez eu une idée pour diversifier votre activité, mais une borne de distribution de gel hydroalcoolique, avec des anciens skis.
C'est ça. En fait, c'est une idée qui a émergé pendant le confinement. Il fallait pas enfermer mon associé, il a trop d'idées. Donc il a eu cette idée-là. On avait besoin d'hygiéniser les mains des convives avant les prestations. Et on voulait s'approvisionner en France, forcément, puisque nous, on valorise les producteurs locaux.
Oui.
Et est née l'idée, avec du recyclage de matières qu'on a sur place en Savoie. En Savoie, il y a énormément de paires de skis qui redescendent en fin de saison dans les vallées. Et donc, on avait ce matériau. Et l'idée, ça a été de mettre à la verticale des skis, de mettre entre les deux un bâton, le frein de pente qui évite que le ski dévale quand vous tombez. Avec ça, on fait un effet de levier et on remonte le bidon contre la fixation du ski. Et ça permet de s'hygiéniser les mains.
C'est apparemment simple à faire. Il faut quand même un support parce que sinon, les skis eux-mêmes vont tomber.
Voilà, c'est ça. Alors les supports, il y a deux types de supports. Soit c'est du bois qu'on récupère, soit sinon on a fait faire par une petite chaudronnerie locale un support métallique qui est beaucoup plus lourd. Donc les gens qui veulent déplacer la borne, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est toujours dans cette idée de s'approvisionner auprès de producteurs locaux.
Alors avec Frédéric, vous dites, bon, on va faire ça. Et puis
voilà,
on va s'amuser un tout petit peu, ça va nous occuper.
Voilà. Entre deux confinements.
Ouais. Et l'affaire devient sérieuse.
Oui. Alors, elle devient sérieuse dans la mesure où ça nous permet de rencontrer tout un tas d'acteurs du recyclage, de la montagne, et de leur proposer les bornes, soit à la vente, soit à la location. Donc on a fait des gros événements, comme les Arc Film Festival ou l'Odyssée Odyssée, là, une course caritative, qui permet du coup aux organisateurs d'avoir des distributeurs originaux. L'intérêt du distributeur, c'est que face à cet objet, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc, ça marche? Alors on tend les mains et puis on a les mains gelées. Voilà. Et c'est le gros intérêt en fait de cet appareil, c'est qu'il intrigue, donc il pousse à être utilisé.
Et vous l'avez baptisé « On se les gèle ici ».
Oui, voilà, ça, c'était notre petit côté décalé. On a senti un gros coup de froid, je ne sais pas si vous l'avez senti à un moment aussi, pendant les confinements. Et on s'est dit, le gel, on le prend ici, donc on se les gèle ici.
Mais là, on passe d'une phase artisanale, c'était le cas au départ, à une phase quasi industrielle.
Pas vraiment industrielle tout de même, mais nous, on veut rester dans cette dimension humaine. Donc on s'associe avec différents organismes. On avait les chantiers valoristes qui nous produisaient des bornes avec certains artisans pour les produire en fait régulièrement.
Ouais, mais vous en êtes quand même déjà 200 exemplaires vendus.
Voilà, c'est ça. Ouais. Un bon niveau de vente, mais voilà. Ouais. Alors, pour être honnête, nous on regarde les JO 2024 en se disant il y aura besoin d'hygiéniser les mains et on peut rappeler qu'on a des grands champions de ski. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là de se dire, sur les grands événements à venir, il y aura des besoins, c'est sûr.
Oui, et puis il y a d'autres événements, hein, puisque c'est votre mission au départ, vous, traiteur en événementiel. Comment vous vous approvisionnez en vieux ski?
Alors, mon associé vous dirait qu'il a passé une heure et demie dans une benne à sélectionner des skis en plein mois d'août. Et que c'est éprouvant. Non, en fait, la filière est très organisée par des collecteurs du type Trivalet, Trialp, qui sont des acteurs locaux du recyclage, en fait. Donc, il y a une partie qui est stockée pour être réutilisée comme matériau, et une autre qui est broyée pour faire du matériel pour faire les routes. Voilà. Et donc nous, on récupère dans cette première catégorie, il y a des bennes entières, et on est même allé chez des loueurs également, les chercher directement chez des loueurs.
Oui.
Ça permettait d'avoir des skis à leur marque.
En sachant qu'il y a un nombre de déchets inimaginable, on parle de 800 000 skis et snowboards chaque année qui partent à la poubelle.
Mais c'est colossal,
ouais.
Et à la fois c'est un matériel de construction qui peut être aussi utile. Je sais qu'il y a des gens en Savoie qui réfléchissent à ces logiques-là, architectes notamment.
Exactement.
Pour faire des structures qui soient avec ce matériau-là. Alors, je ne sais pas si on peut parler de matériau noble, mais en tout cas qui est un matériel intéressant.
Ouais. Et puis on entre dans une économie circulaire. On vous donne deux liens, la source voisine, l'entreprise des traiteurs de l'événementiel, Frédéric et Romuald, la source voisine.fr, et puis donc les fameuses bornes, on se les gèle ici.fr. J'aime vraiment beaucoup. Merci Romuald.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
On reste en Savoie avec une maison d'édition jeunesse qui tient le cap depuis sa création à Chambéry. En 2009, elle s'appelle Boule de Neige, vous l'aurez compris. Sa longévité tient à ce phénomène indiscutable. La particularité de ces éditions est d'axer les publications sur le local en mettant en scène des paysages alpins, en s'inspirant de contes locaux, de légendes locales. Les auteurs, les illustrateurs, on va dire autrices et illustratrices aussi pour n'oublier personne, sont eux aussi locaux. Mais comme la montagne parle à tout le monde, il n'y a pas de frontières pour lire les histoires de Boule de Neige. Et depuis 12 ans, la maison a donné naissance à plusieurs collections, dont celle des Contes alpins destination des 6-10 ans, avec 14 titres. À la suite de la lecture, il n'est pas rare que les enfants demandent à leurs parents d'aller visiter l'abbaye de Hautecombe ou la grotte de l'ours des cavernes en Chartreuse, comme l'écrit David, responsable éditorial de la maison. Autre collection, Les Petits Flocons, à l'adresse des tout-petits, qui comprend 12 volumes. Et je n'oublie pas une collection de BD, Là-haut sur la montagne. Ce que l'on aime bien dans cette entreprise, c'est sa réactivité face à un certain dédain pour l'édition régionale, cantonnée trop facilement au régionalisme, avec son folklore ou son manque d'ouverture. C'est d'ailleurs le credo des éditions Boule de Neige que, je cite, « de faire vivre une culture locale riche sans faire du régionalisme au ras des pâquerettes ». Le site, c'est édition, alors ED, trait d'union, bouledeneige.fr. Et puis, on passe à une personne que l'on apprécie aussi dans les carnets, c'est Michel Montbrun. Michel, bonjour.
Bonjour.
Cher Michel, vous faites partie des habitués, des fidèles des carnets de campagne, mais parce que vous avez épousé la cause sociale, la cause environnementale, la cause écologique, la cause humaine, bien longtemps avant les carnets de campagne, à une échelle locale, à une échelle nationale, à une échelle internationale aussi, avec les programmes des Nations Unies.
Ouais.
Et vous êtes président de l'association AVEC, Agir et Vivre Ensemble,
ouais. Et
qui a donné naissance à Éco-Jolie Terre Vivante. Alors, ça se définit comment, Éco-Jolie ?
Ce mot, je l'ai emprunté à Tignous. Tignous, c'est l'un de ceux qui sont morts à Charlie Hebdo.
Oui.
Et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Éco-Jolie. Parce qu'il était, par ailleurs, non seulement le dessinateur génial, mais aussi, et l'artiste, mais aussi très mobilisé sur la qualité de vie, sur l'écologie. Il était effaré par les montagnes de déchets que l'on produit et qui nous empoisonnent l'atmosphère, les sols et les eaux, etc. C'est un coup de chapeau à Tignous en même temps. Éco-Jolie Terre Vivante, on l'a appelé.
Et c'est d'abord une association avec, il y a eu une AMAP, puis une deuxième, puis une troisième, un site internet, un magasin de producteurs, on va y venir. Mais moi j'avais entendu dire qu'avec la crise, les AMAP n'étaient pas aussi sollicitées qu'auparavant et qu'aujourd'hui elles avaient un petit peu du mal à écouler leur production. Vous prouvez le contraire dans le Sud-Essonne.
Ben, on prouve c'est pas qu'on prouve le contraire. On a surtout essayé d'imaginer et d'inventer une adaptation aux réels problèmes que vivent les gens. Le panier à main demeure quelque chose d'important, de fondamentalement sur le plan des valeurs et de la relation avec les producteurs locaux, important. Mais beaucoup de gens n'ont pas accès à la MAP. Pourquoi ? Parce qu'ils sont loin du lieu de distribution et ils n'ont pas de moyens de locomotion. Parce qu'ils sont âgés et qu'ils ne se déplacent plus. Parce qu'ils vivent dans nos régions de Sud-Essonne. Ils travaillent à Paris et ils ne sont jamais rentrés avant 19h30, 20h, quelquefois plus. Parce que le temps de retour est de 1h, 1h30, 2h parfois. Donc il y a un tas d'empêchements. Puis il y a ceux qui sont seuls pour lesquels un panier toutes les semaines à s'engager, c'est trop. Et pour ceux qui le feraient bien, mais c'est trop cher toutes les semaines un panier qu'on doit prendre en abonnement. Donc il fallait trouver d'autres formules. On a commencé par inventer la formule d'envoyer par mail à toute une série de gens qui ne pouvaient pas trouver satisfaction à la MAP une liste de produits disponibles. Plus large d'ailleurs que ceux qu'on a dans le panier de légumes et des fruits de la MAP. Et puis la pandémie nous a amené à élargir considérablement cela et on a eu un afflux de commandes pendant les périodes de confinement fortes de fin 2020 début 2021 par ailleurs. Et c'est là que est née l'idée de réaliser les magasins de producteurs locaux. Parce qu'à la fois ça répond à l'accès à une alimentation locale, bio et solidaire, mais aussi ça fait revivre les villages. Vous savez, on a une centaine de villages dans ce Sud-Essonne, de tailles qui vont de 150-200 habitants à 4 ou 5 000. Plus de la moitié, presque les deux tiers, n'ont plus aucun commerce ni service de proximité. Alors le lieu de la boutique de producteurs local, bio et solidaire, on veut aussi en faire un lieu de convivialité, d'accueil, d'échange, de retricoter un peu la relation et la confiance. Ça manque tellement dans tous ces villages.
Alors, la boutique à Duisons-Longueville, mais si on habite, on revient au même problème, si on habite assez loin ou qu'on n'a pas les moyens de se déplacer jusqu'à cette boutique, comment faire ?
Alors, on a deux projets complémentaires. D'abord, on va développer d'autres boutiques de proximité. Appel à monsieur ou madame le maire de chacune des communes, si vous avez un local quelque part, un ancien magasin pas utilisé. On est preneur, on va le transformer en écologie, ma boutique de proximité de producteurs local, bio et solidaire. Mais aussi, combien de villages peuvent disposer d'un lieu communal ou associatif où l'on peut venir chaque semaine livrer des commandes par Internet? Ou les commandes, quand les gens n'ont pas Internet, avec l'ordinateur qu'on arrivera sur place, avec lequel on viendra sur place, pour que les gens commandent leurs produits locaux et bio pour la semaine suivante. C'est-à-dire un lieu de livraison qui soit en même temps un moment de relation, un moment d'échange, un moment de connaissance de ces producteurs qui sont prêts à venir se déplacer pour mieux faire connaître à la fois la qualité de ce qu'ils font et les difficultés qu'ils vivent. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, un réseau de relais et une multiplication du nombre de ces boutiques de producteurs de proximité.
Je remarque que, si je peux me permettre, 80 ans plus tard, vous avez toujours la patate, hein, Michel ?
Oui, j'ai la patate, même si quelquefois c'est un peu difficile. J'ai la patate parce qu'il y a tellement de gens qui sont prêts à changer, à évoluer, qui sont prêts à inventer un avenir différent. J'utilise volontiers ce terme de retricoter la relation, retricoter la confiance, retricoter l'espoir. Sinon, c'est quoi d'autre ? Et tout cela est dans la lignée de ce qui a fait mon épine dorsale, ma ligne de conduite toute ma vie. Il y a éducation. Chaque fois qu'un individu est parvenu à se construire pour devenir un citoyen libre, autonome, et responsable.
Rejoignons Écho Joli avec Michel Monbrun. Merci beaucoup, Michel.
Merci, Philippe. Bon courage à vous.